Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Bon début de semaine, bonnes vacances. Si elles se poursuivent ou débutent pour vous, vous avez bien fait de choisir Europe 1 jusqu'à 12h30. C'est la bonne humeur au programme avec Anne Romanoff et toute son équipe. Le meilleur de Ça fait du bien avec leur invité. On commence très fort avec Chantal Latsou. Bonjour Chantal Latsou.
Bonjour Anne Romanoff.
Alors, bienvenue sur Europe 1.
Bienvenue.
Il paraît que vous parlez super bien anglais, Chantal Latsou.
Yes.
Montrez-moi.
Yes. I like. I parle very
bien
anglais. Ça me rappelle une anecdote avec toi, mais on va pas leur dire quand même.
Vous êtes allé à Londres avec
elle
Anne Romanoff.
Très fluente.
C'est bluffant.
On avait fait un voyage à Londres il y a 20 ans, toutes les deux. Elle m'avait hébergée chez une copine à elle.
Il y avait un chien, non? Il n'y avait pas une histoire de chien.
Oui, alors, elle nous fait dormir dans le même lit. On se connaissait, mais pas non plus.
Mais raconte notre histoire sexuelle, tu peux maintenant. On a dormi dans un lit de 110 quand même.
Donc on dort dans le même lit et après elle se lève pour le petit déjeuner. Et moi.
Et moi, je suis une lève-tôt, alors qu'elle est un peu lève-tard. Ouais. Et le chien était devant la porte.
Pas un petit chien, une espèce d'horrible chien énorme.
Un énorme labrador.
On ne sait même pas ce que c'est comme race, quoi, tellement il était muet.
Un énorme labrador.
On l'embrasse en tout cas. Il est allé dans le lit.
Et elle a appelé, c'était au troisième étage de la maison, une maison à l'anglaise, tu sais, où on monte et on descend sans arrêt. Et moi, j'étais au petit déjeuner avec mes amis anglais, je parlais, etc. On avait fermé la porte pour ne pas faire de bruit, etc. Et elle criait au secours, j'ai peur du chien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle se lève tard, celle-là? Alors, vraiment, c'est honteux.
J'étais bloquée par le chien.
I was blocked by the dog.
Comment ?
Il était dans le lit, le chien ?
Non, il est venu devant la porte, mais je ne pouvais pas sortir parce qu'il était devant, j'avais peur.
C'est incroyable d'avoir peur d'un labrador, quand même. Hein.
Alors, dans ce spectacle, Chantal Latsou, vous parlez de vos vies, mère, belle-mère, grand-mère. Il y a quelqu'un dont vous parlez beaucoup dans votre spectacle, c'est Michel, votre mari ?
Toujours, parce qu'il m'habite énormément.
Il vous habite ?
Oui, il m'habite énormément.
Il a de la chance.
Et je suis drôle sans le vouloir, c'est dingue. Et alors, donc. Et donc, il est avec moi toujours, et c'est un sketch sur pattes. Il suffit que je le regarde et j'ai une anecdote sur lui.
Vous êtes mariée depuis plus de 40 ans, je sens là-dessus.
44 ans, bientôt
44
45.
Ans, c'est quoi le secret?
Ah, tu voudrais bien savoir.
Ah bah moi, de toute façon, je serais plus mariée 44 ans.
Tu étais très contente d'avoir quitté ton vieux mari.
Non mais c'est quoi le secret, Chantal Latsou?
Le secret, c'est d'être tombée sur le bon numéro et de jamais laisser des choses.
Pourtant, vous engueulez souvent.
Tout le temps. Mais ce sont des petites engueulades soupolées, tu vois, très rapides.
Oui, mais des fois, vous descendez de voiture en marche.
Ah oui, quelquefois, je descends de voiture en marche et d'ailleurs, quelquefois, maintenant, il m'entend plus sauter. Donc, l'autre fois, je suis restée 3 jours dans le fossé. Heureusement que les encombrants sont passés. Vous connaissez tous les endroits. Mais si vous voulez, mais maintenant c'est lui qui saute de la voiture en marche.
Ah bon ?
Je peux plus te supporter, t'es sur l'autoroute, je peux plus te supporter, je peux plus voir ta gueule. Je saute pas, Michel, c'est toi qui conduis quand même. Hein.
Alors, Chantal Latsou, on parle souvent de votre voix et de votre phrasé désormais légendaire. Comment on arrive à transcender ça ? C'est votre vraie voix, ça ou...
Mais pourquoi c'est pas ma vraie voix ? C'est ma vraie voix, en fait. Je suis trop paresseuse pour avoir travaillé une voix. Tu te rends compte d'avoir travaillé ça ? Non, c'est ma voix. J'avais déjà quand j'avais 3 ans et demi. Hein.
Cette voix-là ?
Ah ouais, je descendais l'escalier et mon père me disait « Attendez, vous voulez demander quelque chose ? Demande-nous une bière, Chantal. Je veux une bière et un paquet de frais. » Ça fait drôle, alors que toutes les petites filles, c'est « Ouais, ça fait quand même drôle à 3 ans et demi.
Et vous, dès toute petite, vous adoriez faire rire les gens?
Oui, j'adorais ça. J'étais un peu une attraction pour la famille, si vous voulez. On me mettait sur la table, mon grand-père, et puis il me faisait chanter des chants lyriques.
Et
il disait « Regarde son palais !» Moi, je ne me souviens plus, des trucs un peu très classiques. Mais... Et « Regarde son palais, j'ai un palais très bombé, je crois que je vous l'ai déjà dit. Vous savez, ça doit résonner à l'intérieur. » Et comme j'ai beaucoup de vide dans ma tête, vous comprenez.
Et alors, vous avez eu des débuts de carrière pas faciles. Déjà, à un moment, vous voulez inscrire dans une école de théâtre.
Oui.
Et puis, vos parents ne veulent pas.
Ah oui, mon père ne voulait pas. Il m'a dit non. Et puis, finalement, je suis partie toute seule à Paris. Je me suis inscrite chez René Simon.
Et vous avez gagné votre vie toute seule. Vous étiez secrétaire.
J'ai gagné, oui. Je suis allée chez Rank Xerox pour gagner ma vie.
Secrétaire.
J'apprenais. Non, il fallait que je bouge. Parce que donc, il fallait une voiture fournie. Il fallait pas voiture fournie, voiture. Bonne présentation.
Ouais.
La bonne présentation, je l'avais, mais je n'avais pas la voiture.
Ouais.
Et j'ai un petit peu menti au départ. Il fallait aller en clientèle, apprendre aux gens à se servir des machines à photocopier. C'est génial, non ?
C'était ça
donc
votre métier.
Je me baladais, j'appelais le matin. Allô, il y a des initiations. Non, Chantal, tu peux te recoucher. Ou tu peux aller au cours Simon. C'était très libre. Mais je n'avais pas de voiture. Donc, je n'avais pas acheté une vieille Fiat 500 qui m'a lâchée avenue Neuilly, si vous voulez. Alors que je devais aller en clientèle avec un vendeur.
Et c'est comme ça que vous avez rencontré votre mari, je crois.
C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari.
Est-ce que cette entreprise existe toujours ?
Oui, cette entreprise existe toujours.
Ça m'intéresse.
Mais j'y suis plus et on en parle beaucoup moins quand même.
Alors, vous l'avez initié aux photocopies, votre mari ?
Non, c'est lui qui était là et qui était dans la vente et qui m'a demandé un jour, mademoiselle, est-ce que je peux vous demander un conseil ? J'ai un problème en clientèle.
Ouais.
J'ai dit, qu'est-ce qui me fait chier celui-là vendredi soir ? J'allais rentrer chez moi, je faisais juste mes papiers, etc. Finalement, je suis rentrée avec lui. Enfin, je suis allée boire un pot avec lui, et puis il m'a plu, et puis... Mais j'ai pas cédé tout de suite, il a attendu un mois quand même.
Un mois ?
Ah oui, oui.
Pour l'époque, c'est beaucoup.
Il a fait le grand jeu, il me dit, mademoiselle, je vais fermer un bateau à Saint-Tropez d'un ami, vous voulez venir avec moi ? Mais qu'est-ce qu'il croit, lui ? J'y suis allée quand même en stop.
Vous avez été en stop, le rejoindre
stop,
à Saint-Tropez ?
Rejoindre Michel à Saint-Tropez.
Et là ?
Et là, j'ai été prise par un mec, en fait, qui voulait faire une moyenne, porte d'Orléans, et il allait à Fréjus. Et il m'a dit, je vous emmène, je vous déposerai à Saint-Tropez. J'ai dit, ok, d'accord. Il voulait faire une moyenne. Et puis, d'un seul coup, il s'est arrêté. Il a ouvert ma portière. Il ne parlait pas. Il a mis une couverture devant ma portière. Et il a fait à fond, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il a attendu. Et j'ai fait semblant de dormir, forcément. Hein. Oui. Il m'a attendu. Et puis, il a pris sa couverture. Il avait qu'il n'y avait rien à faire. Et il est parti à Fréjus. Et il m'a laissé au camping de Fréjus. S'il m'entend, merci. Hein. C'était il y a 45 ans. Hein. Et il m'a laissé au camping de Fréjus. Je refais du stop et j'ai été pris par un boulanger qui allait faire sa tournée à Saint-Tropez. Et j'ai rejoint Michel à Saint-Tropez. Comme
il était au courant que vous alliez le rejoindre ?
Non.
Ah.
La surprise.
Il n'était pas avec une autre fille.
Bah, heureusement, non.
C'est toujours dangereux débarquer par surprise.
Mais moi, j'aime bien ça.
Ah oui ?
Oui, il n'était pas avec une autre fille. Ça, c'est bien.
Ouais.
Donc, ça m'a conforté.
Et comment vous aviez son adresse à Saint-Tropez ?
Parce qu'il était sur le port. Était sur un bateau
en face de
Saint-Tropez.
Vous avez pas fouillé
un bateau en face de Sénéquier, ils sont tellement gros, il n'y en a qu'un.
Ouais. Et c'était donc là, vous toquez à la porte du bateau.
Oui, j'ai réveillé tout le monde parce qu'ils avaient fait la fête quand même.
Ouais. Et alors vous arrivez et là.
Et j'arrive et dis, oh, putain, t'es là, c'est vachement sympa et tout. Et t'allais prendre un café et puis après il a attendu un petit peu, etc. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de vous faire rire, mais c'est drôle.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff prend ses quartiers d'été.
Vous êtes bien sur Europe 1 toute la matinée. On sourit, on se détend, c'est les vacances et c'est votre programme de tout l'été jusqu'à midi et demi. Avec Anne Roumanoff, les meilleurs moments, aux côtés de Chantal là-dessous. C'est quoi que j'entends là ?
C'est mon appareil attention qui fait du bruit.
Mais j'entends du bruit.
Ah ouais, mais c'est mon appareil attention, je le
mais
dis
sérieux
vraiment. C'est vrai, parce qu'on mesure ma tension, je fais tellement de choses que j'ai peut-être de la tension.
C'est vrai, ça s'en a.
Elle m'a mis un tensiomètre,
ah oui, oui,
pour la journée.
Parce que vous avez des problèmes de tension.
Ça, c'est exceptionnel. Ça.
Vous avez des problèmes de tension.
C'est-à-dire qu'elle monte de temps en temps. Donc, comme je fais énormément de choses, j'ai un spectacle très vivant, il faut le dire. Hein. Mon cardiologue m'a dit, on va mettre un appareil d'attention. Je fais une radio demain, ça fait rien, ça s'entendra pas, il m'a dit.
Ah bah ouais,
donc, on mesure ma tension, si vous voulez.
D'accord.
J'en ai peut-être pas, j'en ai. Mais je fais tellement de choses, je fais gaffe quand même.
Ouais. Là, je peux vous informer qu'il y a une prise, là.
Et vous êtes grand-mère, en vrai, Chantal.
Je suis grand-mère. Les gens n'y croient pas. Parce ouais. Parce que je dis trop de choses, je dis tout en fait. Ouais.
Vous êtes vos enfants.
Je suis grand-mère, j'ai deux petits-enfants de 2 ans et 3 ans et demi.
Et ça se passe bien, vous êtes quel genre de grand-mère ?
Très très bien, malheureusement ma fille est partie habiter en Hollande et elle m'a privé de mes petits-enfants, cette petite salope. Alors, non.
Et du coup, vous devez aller les voir.
Ben, j'y vais souvent.
Ouais, en Hollande.
Entre deux télés, entre
mais
deux
films.
Mais
vous fumez pas du coup quand même en Hollande,
hein? Ah, allez... Non, bien que Philippe Manœuvre m'a emmené et m'a branché sur tous les coffee shops quand même.
Ah oui,
oui.
Vous avez déjà fumé des pétards, Chantal, là-dessus?
Avec lui, oui, quand je suis allée en Hollande la fois dernière.
Et alors? Ah là, vous avez fumé votre premier pétard à...
Oui, j'ai bien fourri pour tout. Oui, pas mon premier, de temps en temps j'en ai fait quand même. Je suis de la génération 68. Donc c'était donc j'en ai mais bon
vous
ça
êtes
me fait
arrivé...
pas grand chose parce que je crois que je l'ai naturellement, j'ai pas besoin de fumer si vous voulez.
Donc vous êtes arrivé chez votre fille en Hollande pour garder les petits enfants complètement fumés.
Oui, c'est-à-dire que j'avais vu Philippe Manœuvre avant.
Ouais.
Donc mais bon, ma fille était pas allée pour ça du tout, hein. Mais
vous lui avez dit que vous aviez fumé ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle
a dit ?
Elle
était folle quoi. Non, elle est très 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 bonne mère, très clean, très Et bon, mais le problème, c'est qu'elle est en Hollande maintenant. C'est à une heure d'avion, hein, c'est pas grave, entre deux télés, je peux y aller.
Mais pourquoi elle est en Hollande à cause
elle, avait, elle en avait assez de Paris, de l'amorosité parisienne, des grèves, des trucs comme ça, des agressions, de toutes sortes, des événements aussi du Bataclan, etc. Ils l'ont vécu vraiment très fort. Et elle est partie, et elle est tombée amoureuse d'un endroit qui s'appelle Harlem, à côté d'Amsterdam, où c'est un petit peu les bisounours, hein, des jardins partout, des vélos, plein de choses pour les enfants, des cafés avec, où les enfants peuvent jouer, les parents sont là entre eux.
Et les parents sont là à se droguer. Sur les...
voilà, tout est cool, tout est vraiment beaucoup plus facile, en fait. Enfin, c'est, elle est là depuis le mois de septembre, je dis, si ça va pas, reviens. Mais pour l'instant, elle adore.
Ça fait 3 mois, donc.
Ça fait 3 mois, voilà. Moi-même, au début, je me dis c'est bien. Puis finalement, ça fait 3 fois que j'y vais. Et de plus en plus, j'aime cet endroit.
Vous allez aussi émigrer en Hollande,
je pense. Oui, peut-être. Oui. Et puis c'est à côté de la mer. Elle y va, elle sort de l'école, elle va sur la plage faire courir ses enfants.
C'est oui, extra... non, c'est pas d'accord, mais c'est
pas les
la
Caraïbes.
Mer.
Hein.
Oui,
c'est... non, mais c'est la mer du Nord. Vous savez, c'est une fille qui aime le Nord. Elle m'a dit, maman, définitivement, je n'aime pas le Sud. J'aime la brique rouge. J'aime le ciel violent. J'aime Brel. J'aime le vent. J'aime le nez rouge. Voilà.
Non. Chantal Atsou, Laurent Barra a des choses à vous dire.
C'est donc le cœur lourd, mais la conscience tranquille, que je mets fin à notre belle relation. Veux-tu accepter, ma chère ex-future petite amie, l'expression de mes sentiments distingués ? Voilà, pardon Chantal Latsou, je terminais juste d'écrire ma lettre de rupture destinée à ma copine actuelle. Car oui, Chantal, vous n'avez certainement pas oublié qu'il y a presque un an, dans cette même émission, je vous déclarais ma flamme, provoquant chez vous ce regard empreint d'émotion et de détresse, semblant vouloir dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» Appelez la sécurité, nom de Dieu, vous voulez mettre un coup de taser dans le cul ? Meurtri, j'ai essayé de vous oublier, n'écoutant plus vos sketchs à la radio, ne regardant plus vos films à la télé, jusqu'à ce que Anne Roumanoff me demande d'être présent aujourd'hui en face de vous. Et ce qui tombe assez mal, Anne, puisque j'ai rencontré une femme plus jeune que moi. On a 15 ans d'écart, hein, blonde, pétillante, sublime. Mais je ne vous cache pas, Chantal, qu'à 41 ans, je suis épuisé. Ouais, je suis épuisé, on n'a pas du tout le même rythme. À 26 ans, on se couche tard, on se lève tard, on brûle les graisses. Alors qu'à 41 ans, on les stocke. Et à 26 ans, on s'agace quand son mec s'endort à 21h30 devant la télé en lui posant cette question tellement ridicule. Tu dors ? Non, je meurs de fatigue, tout simplement. Oui, je l'ai séduite, Chantal, en lui faisant le numéro du comédien Hidalgo qui voulait poser ses valises.
Les beaux yeux.
Caliente. Et oui, un mois plus tard, elle a découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. Voilà. Comme vous le dites dans votre spectacle, un jour, elle s'est réveillée et elle a vu un vieux à côté d'elle dans son lit. Et ce vieux, c'était moi. Voilà. Pourtant, elle me dit souvent que l'amour n'a pas d'âge et elle a certainement raison. Je vais peut-être pas lui donner cette lettre de rupture. Car à l'image de votre spectacle tellement sincère et criant de vérité, ce qui fait la qualité d'une personne, ce n'est pas sa date de naissance, mais ce qui se cache là-dessous.
Oh, c'est joli. Merci. T'es amoureux, hein?
Je sais, oui,
ça va
certainement.
Ça va pas être facile avec Michel, je te signale.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
La reprise économique se passe un peu mieux que prévu. Des territoires se bougent pour redynamiser les centres-villes. Gros plan sur les initiatives dans la Sarthe, en Savoie et en Bretagne. Et on en parle dans La France bouge.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors rendez-vous tout à l'heure, dès 13h, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1 jusqu'à 12h30, les meilleurs moments d'Anne Roumanoff. Dans un instant, on retrouve Anne aux côtés de l'homme de théâtre et d'écriture Philippe Torreton. C'est juste après Chris Isaac.
I never dreamed that I'd meet somebody like you. may feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love, no, I don't wanna fall in love with you.
Wicked Game sur Europe 1, Chris Isaac, vous êtes bien, c'est le meilleur. Dan Romanoff jusqu'à midi et demi, on se détend, on se rappelle tous les bons moments de cette année avec notamment Philippe Torreton, reçu pour la pièce La vie de Galilée. Vous êtes blessé.
Oui, voilà, hier soir, je me suis pris le décor.
Mais vraiment, parce que là, on ne vous voit pas, mais vous avez une écorchure et tout ça.
Ouais, je me suis bien cogné la tête dans le noir, il y avait de la fumée.
Vous êtes rentré dans le décor.
Ouais, un ongle. Je me suis pris un ongle. Voilà.
Comme son nom l'indique, La vie de Galilée. Donc c'est une pièce sur La vie de Galilée. Jusque-là, on est prévenu, hein, que voilà, ce ne sera pas sur La vie de Kenji Girac. Qu'est-ce qu'elle a d'incroyable, La vie de Galilée? Comment vous avez abordé le rôle? Vous êtes plongé? Vous avez étudié sa vie?
On se renseigne un petit peu, mais moi, j'estime que la nourriture de l'acteur, c'est la pièce. Voilà. Tout le reste, on peut se documenter, c'est pas inutile. Mais tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas dans la pièce ne peut pas être joué. Ce qu'on dit, c'est les mots de Brecht. Donc, mais ça tombe bien, puisque Brecht a fait une magnifique pièce. Je trouve que c'est c'est un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Pour moi, dans mon petit panthéon des pièces préférées, c'est pas très loin derrière Hamlet, La vie de Galilée. C'est une immense pièce qui mêle justement des propos scientifiques. On est dans une sorte de thriller scientifique.
Mais accessible.
Totalement accessible. C'était l'obsession de Brecht, c'était de faire du théâtre pour tout le monde, comme Shakespeare. C'est pour ça que je les associe un petit peu. Ils ne sont pas si comparables que ça, mais de ce point de vue-là, oui. C'est des gens qui s'adressent à tout le monde.
Alors, Galilée, il a bâti sa carrière sur un mensonge. C'est raconté dans la pièce.
Alors, il s'est approprié la lunette astronomique.
C'était pas tout à fait la sienne.
Qui avait été inventée quelques semaines avant
par
en Flandre.
Le fameux Hollandais.
En Flandre.
Exactement, ouais. Et disons
c'est pas très honnête, ça, quand même.
Oui et non. C'est-à-dire que Galilée travaillait sur l'optique aussi. Parce que ces scientifiques de l'époque travaillaient sur tout, en fait. Et il avait quelques notions d'optique. Simplement. Le côté convexe, concave des lentilles qu'on met dans un tube et tout ça, il n'avait pas... Voilà. Il apprend ça par hasard et il décide très vite d'appliquer ce que lui connaissait de l'optique à ce... Donc il a nettement amélioré. C'est-à-dire que la lunette de Galilée n'a rien à voir.
Il a piqué l'invention d'une autre, d'un autre
manière. On l'a sublimement.
Voilà. Voilà.
On va dire.
Et à la fin de sa vie, c'est renié parce qu'il était poursuivi par l'Inquisition. Et il a...
Ben, il a été obligé, oui, de... C'est une lutte comme ça d'un homme qui, grâce à cette lunette, jusqu'ici, les scientifiques n'avaient pas pensé à dresser une lunette vers le ciel. On regardait les bateaux, on regardait voilà, ce qui se passait ailleurs, mais pas vers le ciel. Lui est un des premiers. Il y avait un Anglais qui était au bord qui commençait à observer le ciel. C'est pour ça qu'il y avait une urgence aussi. C'est qu'on dit qu'on est une époque très rapide aujourd'hui, avec tout le monde est en réseau, Internet, etc. Mais à l'époque, c'était déjà le cas, en fait. Les scientifiques étaient connectés entre eux. Alors, évidemment,
mais comment étaient-ils au courant, Quentin, et en Angleterre, l'autre?
Ça prenait quelques semaines. Ouais. C'est-à-dire que les mails de l'époque, c'était à la plume, on écrivait, puis il y avait des pigeons qui parcouraient l'Europe à cheval et qui se relayaient de poste en poste, de relais de poste en relais de poste. Mais en gros, on pouvait communiquer assez rapidement.
Mais fallait
donc
aller
il
vite.
Était au courant, mais il fallait aller vite. Comme il y avait une concurrence. Il y avait une course vers le ciel, en fait.
J'ai vu que votre fille jouait dans la pièce.
Oui.
Le rôle de votre fille.
Oui, elle joue ma fille.
C'est la première fois.
Elle a 26 ans. Elle s'appelle Marie Toreton. Et donc, elle a fait une école de théâtre. Et puis, elle a invité le metteur en scène, Claudia Stavisky, à venir voir un de ses spectacles. Et puis, Claudia m'a appelé pour me dire, écoute, moi, je suis en train de réfléchir à une comédienne pour ta fille, je la trouve largement aussi bonne que les autres que je vois en ce moment. Donc, alors je lui dis, vois ça avec elle, moi je ne veux pas intervenir là-dedans.
C'est pas vous qui l'avez pistonné, ça s'est fait dans votre dos.
Non, c'est elle qui a...
Ça doit être touchante, surtout avec sa fille sur scène.
Je confirme.
Elle s'est pris le décor, elle aussi, ou non?
Non, elle est plus habile que moi. Elle est beaucoup plus jeune.
C'est la première fois que vous collaborez, alors?
Oui, bien sûr. Ouais, c'est la toute première fois. Et c'est son tout premier spectacle en professionnel. Et donc, elle a tout à découvrir en même temps.
Et vous la trouvez comment, alors, objectivement?
Formidable.
On peut pas être objectif.
Si, bien sûr.
Non, formidable, parce qu'elle a un courage, une écoute, ce qu'ont pas forcément tous les acteurs. Beaucoup d'acteurs font « oui, d'accord, oui. » Mais en fait, ils n'écoutent pas. Elle écoute vraiment ce qu'on lui dit. Et elle... Et comme je lui disais, moi, à 26 ans, j'étais à la Comédie Française, mais j'avais déjà... j'avais déjà 14 ans de théâtre, beaucoup amateur, mais derrière moi, elle non. Donc, et elle démarre dans un gros spectacle, Brecht,
avec des beaux décors, des beaux costumes.
Ouais. Enfin, des beaux décors. Ce qu'il en reste du décor, parce que depuis qu'il a mis un coup de boule dedans.
Le décor est très résistant.
Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à midi et demi. Vous êtes en compagnie d'Anne Romanoff et toute son équipe. On va les retrouver dans un instant avec leur invitée, la journaliste Anne-Claire Coudray. C'est juste après Indochine, nos célébrations. ont fêté leurs 40 ans cette année aux côtés de Nicolas Sirkis, le groupe Indochine sur Europe 1. Nos célébrations jusqu'à midi et demi. C'est le meilleur de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe qui ont reçu cette année Anne-Claire Coudray, que vous connaissez forcément à la présentation du journal télévisé du week-end sur TF1.
Vous êtes une des reines du 13h et du 20h. Moi, je me présente, Anne Roumanoff, reine du 4h et des bains de minuit. Vous pensez que vous êtes la personne la mieux informée de France après le ministre de l'Intérieur, Anne-Claire Coudray ?
Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je regarde beaucoup l'actualité. Je la fais, je la lis, je l'écoute. Donc oui,
c'est
j'ai
une passion.
Sans doute une petite... Oui.
Chaque week-end, Anne-Claire Coudray, vous êtes regardée par 6 millions de téléspectateurs.
Ça même un peu plus. Hein. Vous pouvez monter
7,
d'un million
7
parfois.
Millions, et c'est approximativement l'audience de notre émission à 6 millions près.
Vous avez
jamais peur de faire un lapsus
Si, tout le temps. Tout le temps. Surtout qu'on est en direct, donc c'est compliqué.
Non, vous avez peur de la diction,
du dérapage. J'ai pas peur sans cesse, mais on fait attention.
Vous êtes parfois stressé.
J'ai parfois dérapé par le passé.
Dérapé, c'est-à-dire ?
Pas souvent. Non, des petites blagues qui tombent à plat, donc on fait attention.
On a l'habitude ici des blagues qui tombent à plat.
Oui,
vous pouvez y aller.
Il y a une caisse de résonance dans le journal qui fait que on évite quand même.
Alors, ces 7 millions de personnes, vous y pensez ou est-ce qu'au contraire, il faut surtout pas y penser ? Finalement, ils vous voient, mais vous ne les voyez pas. Il y a des moments où vous voudriez être invisible ?
En fait, on s'y fait très bien. Moi, j'ai choisi de travailler dans un média de grande écoute précisément parce que j'avais envie de parler au plus grand nombre. Donc, c'est 7 millions. Au contraire, je suis ravie. J'aime bien les rencontrer de temps en temps quand je sors quand même de mon studio.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Anne-Claire Coudray ?
C'est
bonjour.
Très positif. Voilà, bonjour déjà. Non, c'est très positif en fait, comme on fait de l'actualité, de l'info, c'est très bienveillant. Alors au début, quand j'ai commencé, on me regardait genre, elle me dit quelque chose, on s'est pas déjà rencontré quelque part. Et puis là aujourd'hui, ils connaissent mon nom, ça me fait plaisir. Voilà.
Ce que les gens ne savent pas forcément, Anne-Claire Coudray, c'est que vous n'êtes pas juste une jolie journaliste qui présente le journal de TF1, vous avez été reporter de guerre.
Oui, c'est pour ça que le contact avec les gens me fait pas du tout peur, je pense. C'est parce que je suis même très contente, encore une fois, d'y retourner de temps en temps.
Ouais. Donc là, il y a ce livre, Elle risque leur vie, 5 femmes reporters de guerre témoignent. C'est un livre collectif aux éditions Talendier avec Patricia Lémonière, Anne Barrier, Liseron Boudoul, Anne-Claire Coudray, Marine Jacquemin. C'est pour raconter votre expérience de reporter de guerre, ce livre ?
Voilà, c'est ça. En fait, on nous a sollicité, déjà parce que on est toutes de TF1 ou anciennement de TF1, comme Marine Jacquemin. Et je crois que TF1 a très vite donné aux femmes la possibilité d'aller sur ces terrains-là, qui étaient sans doute réservés davantage aux hommes. Et c'est vrai que...
C'est une drôle d'idée quand même de vouloir être reporter. Moi qui suis très froussarde, alors ça ne me viendrait jamais à l'idée.
Non, alors justement, c'est quand on fait ce métier, je pense qu'on a envie de se confronter à ce genre de situation très intense qu'on ne rencontre pas forcément dans sa vie.
C'est le côté aventurier qui vous a plu ?
C'est le côté aventurier,
intense,
le côté...
émotion.
J'avais envie aussi de me confronter à des émotions très, très, très complexes, qu'ont encore une fois la peur, le risque, la prise de décision.
Enfin, il y avait Koh-Lanta, c'était moins dangereux peut-être.
Oui, mais ils ne m'ont pas prise.
Ah, d'accord.
Je travaille à TF1, je n'ai pas le droit d'y participer. Okay. Non, mais il y avait...
Non, faites automoto, c'est pas mal aussi. Hein.
Il y avait cette dimension-là, voilà. Et puis après, on a envie de se confronter à des situations qu'on ne comprend pas.
Vous avez vécu des choses dangereuses aussi, Anne-Claire Coudray.
Oui, bien sûr. Mais
vous avez eu peur, j'imagine.
Après, le but, c'est de gérer ce risque, c'est de l'évaluer. On ne part pas en se disant qu'on ne va pas revenir. À chaque fois. Et puis on est une équipe, donc il n'est pas question de prendre des décisions inconsidérées. Donc ça aussi, je pense
mais
que ça.
Mais il y a eu des moments où vous avez dû avoir peur.
Il y a des moments où vous pensez que ça peut déraper, oui, ça c'est sûr. Après, ce n'est pas ceux que vous gardez le plus. Je crois que justement, on n'a pas forcément envie. Mais il y a des checkpoints en Afrique où on se dit que tout est possible. Oui.
Checkpoints, c'est-à-dire on vous contrôle ou...
Oui, c'est des barrages en fait, dans une situation de quasi-guerre civile avec deux camps qui s'affrontent. Et des milices très énervées.
Et vous êtes avec votre petit casque, vous dites je suis TF1.
On est dans nos voitures. Non mais c'est ça, on essaye de trouver une porte de sortie ou en tout cas un terrain de dialogue possible. Et c'est pas toujours facile parce qu'en face, on n'est pas forcément dans un état toujours normal. Ce sont des hommes qui font la guerre et dans des pays où le rapport à la vie n'est pas du tout le même que chez nous. Donc oui, c'est sûr. Mais encore une fois, on essaye... toujours d'être bien accompagné en fait,
Ça vous manque les reportages de guerre, Anne-Claire Coudray ?
Le fait de me confronter au terrain, d'aller voir ce qui se passe, et c'est vrai que cette adrénaline-là, elle me manque. Je l'ai remplacée par une autre tout aussi passionnante, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis que ces 15 années de terrain que j'ai connues, elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Et je trouve que c'est une de mes parts les plus intéressantes et les plus belles. Oui, oui, ça c'est sûr.
Et du coup, il paraît que quand vous lancez des reportages, d'autres reporters, vous êtes très attentifs, vous les appelez avant pour savoir dans quel état d'esprit ils ont fait le reportage. Parce que vous avez souffert parfois, vous, de vous fatiguer pour un reportage et que ce soit lancé un peu comme ça.
C'est vrai. C'est vrai que parfois, sur des situations difficiles, on ne se rend pas toujours compte qu'à Paris, on est très très loin de ce que vous faites. Vous venez de vivre une journée incroyable. Vous avez eu peur de ne pas revenir à temps. Vous avez monté dans des conditions de dingue. Vous avez arraché vos interviews. Il a fallu attendre des heures pour pouvoir passer, voilà, et faire 100 mètres, par exemple. Et puis, c'est vrai que le rédacteur en chef te dit oui, peut-être que ce sera demain, parce que là, on est un peu charrette, tu comprends. Il y a le Premier ministre.
Il y a la météo, il neige.
Mais voilà, et c'est vrai que je comprends complètement maintenant que je suis à cette place-là. Que voilà, c'est aussi ce qui m'intéressait dans la présentation, c'était de prendre de la hauteur et de voir l'actualité de façon voilà, diverse. Mais c'est vrai que quand on est sur le terrain, qu'on est fatigué, qu'on a pris des risques, voilà, qu'on n'est pas chez soi, qu'on est parti depuis 15 jours, il faut se sentir soutenu. Et moi, j'essaye d'avoir ce souci-là, en tout cas.
Comment réagissent vos parents? Parce que votre père est un ancien psychologue devenu adjoint au maire. Votre mère est une ancienne professeure. Maintenant qu'elle a fait une chambre d'hôte, comment ils ont réagi quand leur fille a dit voilà, je suis journaliste, mais je pars reporter de guerre?
Ils y étaient un peu pour quelque chose, parce qu'en fait, toute notre enfance et notre adolescence, on a voyagé, on avait un camping-car. Et ça, c'est des vacances assez incroyables. Vous partez comme ça à l'aventure, vous arrêtez là où vous avez envie de vous arrêter.
Mais c'est pas pareil que reporter de guerre, quand même.
Non. Non, mais le reportage de guerre, ça arrive après le goût
le mois
de la
d'août à la grande mode, des fois, c'est un peu la guerre.
Non, mais nous, on a sillonné l'Europe et puis ils m'ont donné le goût de comprendre. Voilà, un pays où on ne mange pas pareil que chez nous, on ne pense pas pareil que chez nous. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de faire du terrain aussi. Moi, j'avais envie de faire marcher ma tête, mais aussi mes jambes. J'avais envie de me rendre sur place.
Et comment ça se passe, excusez-moi de vous poser la question, mais avec les hommes quand on est reporter de guerre? Parce qu'il paraît que plein de fois, vous avez dû abandonner un dîner, vous avez des gens chez vous, vous les avez invités, hop, vous devez partir en reportage.
C'est pas facile, ouais, j'ai planté quelques dîners. J'ai même planté des invités autour de ma table.
Vous avez des gens chez vous et vous deviez partir.
C'est ça, c'est ça. Mais bon, comme on se reproduit entre nous, entre guillemets, ils comprennent.
Pardon,
non, on a beaucoup d'amis journalistes. Okay. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que vous vivez des choses d'une intensité incroyable et quand vous revenez, c'est compliqué de raconter que vous avez vécu des trucs de dingue sans lui. Vous voyez ce que je veux dire?
Le frigo est vide aussi.
Le frigo est totalement vide, ou alors avec quelques petites moisissures. Non, mais c'est vrai que c'est une vie passionnante que moi j'ai adorée, mais c'est une vie contraignante pour l'entourage déjà, parce que quand vous partez sur des terrains compliqués, les gens qui restent s'imaginent aussi que vous allez prendre des risques, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'ils imaginent, et donc c'est complexe pour ça aussi.
Et maintenant vous êtes stabilisée?
Totalement.
Totalement stabilisé. Donc, arrive à point nommé, en fait, cette histoire. Parce que maintenant, vous avez un enfant, vous avez un compagnon.
Je venais d'accoucher d'une petite fille et c'est vrai que je me dis aujourd'hui que je n'aurais pas forcément réussi à me dire le matin, je peux partir pendant un mois, je ne sais pas quand je reviens avec elle à la maison.
Maintenant, ce n'est plus possible.
Je suis contente de ne pas avoir été confrontée à ça, finalement.
Par contre, vous êtes absente le week-end et vous dites que quand vous revenez le lundi, il faut que vous reconquérissiez votre fille.
Elle
vous fait la gueule, en fait.
Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que quand elle passe du temps avec son papa, oui, je sens qu'il faut que je me refasse ma petite place. Mais là, maintenant, c'est bien, parce que le mercredi, je suis toute seule avec elle. Et du coup, on a un autre rapport. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des semaines à l'envers.
Passer l'été avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
C'est l'été sur Europe 1, vous êtes bien. Juste avant de retrouver Anne Roumanoff et son invitée Anne-Claire Coudray pour la suite des meilleurs moments de Ça fait du bien, on va aussi écouter une belle musique d'été, voilà, qui va vous accompagner peut-être jusqu'en septembre. Summer is a Cruise, The Fame sur Europe 1. We'll be right back.
and you never know. Broke city with a broken heart. You never tried and you never know.
The Fame sur Europe 1 pour vous accompagner tout cet été. Et nous sommes toujours avec Anne Romanoff jusqu'à midi et demi. C'est le programme pendant vos vacances avec Anne-Claire Coudray, son invitée. Elle était venue au mois de février, juste avant le confinement, pour parler du livre « Elles risquent leur vie » paru en janvier aux éditions Talendier, dans lequel 5 femmes reporters de guerre témoignent.
Je présente quelqu'un qui va se perdre dans vos yeux, je crois.
Oh, c'est Ben H. Avec plaisir. Chère Anne-Claire Coudray, enchantée. Ben H, grand reporter pour Anne Romanoff.
Quel
vous
mytho.
Vous êtes avec nous ce midi pour nous parler de ce livre consacré aux femmes reporters de guerre, ce métier qui était le vôtre avant de devenir la présentatrice du 20h que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est avant tout une consoeur donc, de terrain qui me fait face ce midi. Anne-Claire Coudray, on a couvert les événements aux quatre coins du monde. Hein. Vous, c'est Haïti, le Mali, le Sahel. Moi, c'est Haïti, Bali et Courchevel. Bon, chacun ses spécialités dans le métier. Hein. Vous, c'est les guerres et les catastrophes. Moi, c'est mes vacances. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Anne-Claire Coudray, à vous le rappeler dans ce livre. Hein, mais dans notre métier, voilà, le risque zéro n'existe pas. Combien sont rentrés de reportages mutilés ou pire encore, simplement pour avoir voulu nous informer. Le risque zéro n'existe pas. Et quel que soit l'événement, hein, j'ai un collègue reporter qui couvrait les festivals musicaux l'été dernier. Bon, bah, il est reparti, l'horreur, l'accident, avec des morpions. Anne-Claire Coudray, pour tout vous dire, ce midi, je rentre à peine de reportage. En effet, Anne Romanoff souhaite coller au plus près des sujets de fond dans cette émission. Une ligne éditoriale pointue reposant sur deux événements majeurs dans l'année, le Salon du Chocolat et la Saint-Valentin. Alors, ce midi, dans le prolongement de votre livre, Anne-Claire Coudray, pour montrer à tous nos auditeurs les coulisses de la vie d'un reporter de guerre, je vous ai ramené mon journal de bord de mon enquête baptisée « Coupe de champagne, petit cadeau et rapport non protégé, enquête sur la guerre du Grand Amour ». Notre enquête commence le mercredi 13 février 2019. Il me fallait des témoignages fiables pour couvrir l'événement. Je pars alors à la recherche de sources. Dans un but uniquement professionnel, je m'inscris donc sur Tinder. Très vite dans la soirée, j'ai un premier contact, puis un second, puis un troisième. Trois jeunes femmes dont je tairai le nom parce que 1. Un journaliste ne balance jamais ses sources et 2. Parce que je ne m'en souviens plus. Jeudi 14 février 21h. Toujours pour préserver leur anonymat, je donne alors rendez-vous à mes sources dans un lieu discret de la capitale, l'hôtel Ibis, porte de Clignancourt, chambre 312.
C'est classe.
L'interview se passe bien. Je procède avec un certain doigté, et chacune d'elles parvient à s'ouvrir très rapidement. Mes sources ne sont pas figées sur leur position et sont prêtes à donner de leur personne pour mon enquêquette. Pardon,
j'ai bégayé. Non.
Dimanche 17 février. Je quitte alors l'hôtel Ibis de Clignancourt après avoir approfondi le sujet pendant 3 jours et 3 nuits. Il est temps de rentrer chez moi, retrouver ma copine et fêter la Saint-Valentin. Vous le dites vous-même, Anne-Claire Coudray, le quotidien d'un grand reporter oblige parfois à mettre vos histoires d'amour à rude épreuve. Pour le romantique que je suis, c'est peut-être ça finalement le plus dur dans notre métier.
Bravo. 7 millions de personnes qui vous regardent, vous ne pouvez plus faire vos courses. Comment ça se passe, Anne-Claire?
Si, je fais mes courses. Je fais mes courses normalement et
où
je discute du coup.
Où ça?
Calme-toi.
Je n'ai pas le droit de citer des marques, mais non, je fais mes courses au supermarché, bah, évidemment. Et je discute avec les gens qui sont là. Je pense que c'est un bel endroit pour rencontrer du monde. Mais moi, j'ai toujours fait les supermarchés. Enfin, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais quand on partait à l'étranger, ma mère insistait toujours pour qu'on aille dans des supermarchés pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et c'est vrai que c'est plein d'enseignements, les supermarchés. Voilà, déjà, ça nous enseigne, ça nous renseigne sur ce que les gens mangent et puis sur ce qui ils sont et leur culture. Et puis là, aujourd'hui, j'y rencontre des téléspectateurs. Donc non, j'ai gardé cette habitude-là.
Vous avez aussi animé le grand débat présidentiel avec Gilles Boulot. Comment ça s'est passé?
C'était une première. C'était vraiment une première. Alors on les avait reçus.
C'était pire que la guerre, ça. C'était...
Non, parce que finalement on était assez en retrait, nous présentateurs. Il y avait cinq candidats principaux qui devaient s'emparer du débat précisément. Donc on était un petit peu en retrait. C'était fascinant de les voir tous en même temps. C'est-à-dire qu'on
François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Et on a l'habitude de les entendre séparément, mais de les voir face à face, les uns à côté des autres. l'autre, défendre leurs positions différentes, c'était un éclairage qu'on n'avait jamais eu, une sorte de comparaison en direct de leur programme qui était assez inédite et j'espère qu'on le refera.
Alors vous avez aussi, le 15 octobre 2017, vous avez interviewé Emmanuel Macron côté de Gilles Boulot et de David Pujadas. Est-ce qu'il était différent par rapport au débat ou c'était devenu un autre homme? Est-ce que sa puberté a influé sur la deuxième année du quinquennat?
Alors je vais répondre à la première question. Non, il était forcément différent quand vous devenez président de la République. Et nous aussi, on était différents. Parce que moi, je crois que vous ne vous adressez pas à un président de la République comme à un candidat, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi un respect de la fonction. Et donc forcément, c'était intéressant. C'était pas facile. C'est jamais facile. Déjà parce que l'exercice, il n'y a que des coups à prendre. Ces dernières années ou ces derniers mois, on a essayé à peu près toutes les formules possibles et on se rend compte que tout ont des limites. En fait, les gens ne sont jamais totalement satisfaits de l'exercice. Et en même temps, il y a toujours autant de monde qui regarde. Et puis là, on assiste à quelque chose qui est assez incroyable. Hein, le grand débat, ce président qui retrousse ses manches, qui fait tomber la veste. C'est politiquement parlant, c'est passionnant.
Anne-Claire Coudray, vous adorez la musique bretonne?
Oui.
Ah, c'est vous? Oui.
On est quelques-uns quand même, ou quelques-unes.
Et dans une autre vie, vous auriez pu être Nolwenn Leroy ou...
Alors, j'ai pas sa voix, malheureusement, ce qui est un tout petit détail quand on a une carrière en tête. Non, j'adore la culture bretonne. Moi, je fais partie d'une génération où on n'en parlait pas tellement. Et puis, j'ai une petite sœur qui me suit de 5 ans, plus jeune que moi, et qui, elle, avait été d'une génération où on faisait partie de cercles celtiques, où on participait au Fest-Noz, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un revival
moment-là. Vous chantez, vous dansez comme
exactement, ça. Exactement. Non, mais c'est incroyable. Hein. Vous entrez en transe, vraiment. Hein. Les Fest-Noz, c'est impressionnant. Il y a des tout petits, des
même
des
sans chouchène, on peut participer.
Même c'est... sans chouchène, ouais. Ça vous emporte.
Et puis les Bretons sont les meilleurs.
Oh, ça va.
Objectivement, je suis
moi-même. Objectivement.
Parce que vous êtes Locmaria Kerr et moi, je suis Locmaria Plouzané.
Ah,
on
oui,
est
d'accord.
La team Locmaria.
Eh ben oui.
La
eh ben
team Locmaria.
Hashtag team Locmaria.
Vous êtes quatre dans votre truc, ça va.
Mais j'aime bien parce qu'elle m'a regardé avec politesse. Parce que le nombre de gens qui doivent vous dire, moi aussi, je suis bretonne, tout ça.
Pas du tout, pas du tout. Il y a énormément de Bretons dans le monde. Moi, j'en ai rencontré en Birmanie des Bretons.
Ah oui.
Je me souviens, j'étais tombée
grands
sur
aventuriers.
Mais voilà, c'est ça, des aventuriers qui prennent la
des
mer,
marins,
qui partent
oui.
à l'aventure. Voilà, c'est sans doute.
Il fait tellement moche en Bretagne qu'il forcément cherche le soleil là où ils peuvent, hein, les pauvres.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est midi. Les titres du journal de midi et demi avec vous François Claus. Bonjour François.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à la une du journal dans une demi-heure, la crainte et les questions autour d'une aggravation de l'épidémie qui semblait pourtant sous contrôle. Une crainte exprimée par les médecins ce week-end demandant l'obligation du port du masque dans les lieux clos à fort rassemblement. Une crainte que constatent également sur le terrain les médecins des quartiers nord de Marseille et qui se vérifie depuis quelques jours sur le terrain en Mayenne, département devenu le plus touché dans le pays après la Guyane. La Mayenne, où les autorités lancent depuis ce matin une vaste campagne de dépistage. Nous retrouverons dès l'ouverture du journal tout à l'heure le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon, et nous entendrons le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique. À quoi ressemblera demain le défilé militaire du 14 juillet, sans remontée des champs, sans public, sans véhicule? Yasmina Katou a assisté aux ultimes répétitions et nous dira tout dans le journal. À quoi ressemblera l'intervention présidentielle d'Emmanuel Macron, qui avait renoncé à ce rituel lorsqu'il est arrivé à l'Élysée et qui décide d'y revenir en ces temps de crise sanitaire et économique? Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 répondra à cette question tout à l'heure. Nous irons dans le journal à Strasbourg, 3 semaines après le triomphe vert au municipal, pour mesurer les enjeux et la difficulté de la tâche qui se profile pour Jeanne Barseguian, la nouvelle maire, qui s'exprimait pour la première fois nationalement sur notre antenne ce matin. Nous serons également en Pologne, où le président sortant Duda, tendance populiste, conservatrice et nationaliste, a été réélu d'extrême justesse. Et puis nous vous donnerons, Anissa, une bonne idée pour occuper l'été à Paris. Allez donc visiter nos plus beaux musées ou revisiter du Louvre à Versailles. En ces temps de jauge sanitaire très serrée et d'absence de touristes étrangers, c'est le moment ou jamais de vivre une expérience culturelle très rare. Voilà donc pour le
ça
programme. Rendez-vous dans une demi-heure pour le journal.
Merci François Claus, on vous retrouve à midi et demi donc pour développer tous ces titres. En attendant, c'est le meilleur d'Anne Roumanoff, ça fait du bien jusqu'à midi et demi.
11h30, ça fait du bien sur Europe 1.
Anne Romanoff.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 jusqu'à midi et demi. Pendant près d'une demi-heure, on poursuit les meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Romanoff et toute son équipe. Vous l'avez compris, le programme c'est joie, sourire et bonne humeur. Avec Dadju, il était venu en février dernier pour parler de son double album Poison ou Antidote et il sera en tournée dans toute la France, notamment au Parc des Princes. Ça, ça sera en juin 2021. Bonjour Dadju, bienvenue sur Europe 1.
Merci, merci.
Alors vous avez sorti deux albums à trois jours d'intervalle, hein, Poison et puis Antidote, et ça cartonne les deux.
Ouais, bah, je suis content de l'apprendre, je suis content de le voir. J'ai beaucoup travaillé pour cette petite surprise.
Alors ces deux albums sont entrés directement numéro 1 des ventes devant Céline Dion.
Ouais, ça.
C'est tout.
C'était pas l'objectif. On veut surtout pas frustrer ou
c'est pas blesser gentil, qui que ce soit même.
Blesser qui que ce soit, mais ouais, c'est vrai.
Surtout que votre maman est fan absolue de Céline Dion et que vous l'avez beaucoup écouté quand vous étiez petit.
Exactement, exactement. Bah, ça fait que je suis un grand fan de Céline Dion aussi. Et donc voilà, je sais à quel point elle est puissante et ça m'a fait plaisir justement de rentrer numéro 1 devant Céline Dion.
Et alors vous avez pas arrêté de lancer des appels parce que vous aimeriez faire une collab avec Céline Dion.
Ouais, j'aimerais bien la rencontrer. Après une collab, je pense que c'est encore autre chose, mais j'aimerais bien déjà la rencontrer.
Elle arrive là.
On l'enligne. Allô Céline.
Elle écoute l'émission tous les jours.
Elle est un peu vénère, mais sinon
un peu les plonges, mais bon.
Alors Dadju, moi cet album m'a marqué. Je dois vous faire une confession. Dadju, en ce moment ma vie est plutôt. Il n'y a pas longtemps, vous voyez, Dadju, j'ai rompu avec un homme qui m'a fait beaucoup de promesses, dont celle de ne plus penser à son ex. Mais il faut croire qu'il avait la. Alors je lui ai dit. Alors il m'a dit qu'il la voyait plus, puis après il m'a dit qu'en fait. Et moi ça m'a fait. Après, il m'a dit qu'il trouvait que ça allait trop vite entre nous. Je lui ai dit, mais tout ça, c'est à cause de. Que cette femme n'existe pas. Je lui ai dit, moi, quand je pense à elle, je ressens un. Je lui ai dit, écoute, si tu trouves que ça va trop vite entre nous, on peut ralentir. Choisis la vitesse. Je lui ai dit, tu sais, moi, je veux qu'une chose. Je veux que quand tu parles de moi, tu dises, Anne, c'est vraiment.
Bravo, bravo. Mais j'aurais dû faire un 44 titres, on serait là jusqu'à demain.
Alors Dadju, comment on pourrait définir votre style? Vous faites ni du rap ni de la variété, vous parlez d'afro-pop, c'est ça?
Justement, j'aimerais justement ne pas définir ma musique.
Il y a quand même une chanson où vous tuez tout le monde.
Oui, mais il y a des petits moments de relâchement. Oui, oui, oui. Ah, bon,
ça arrive à tout le monde.
Vous avez été énervé, vous? Vous n'avez jamais tué quelqu'un, vous?
Bah, en fait, justement, c'est dans ce deuxième album, ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est le 360. Moi, j'ai pas envie de mettre les gens dans un cocon à Disneyland, tu vois. J'ai vraiment envie de montrer que dans l'amour, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du.
À qui le dites-vous?
Il y a du très grand love.
On connaît surtout les bas, nous, ici.
Et je suis très terre à terre. J'ai vraiment envie de. Et je trouve que le positif passe encore mieux quand tu dis toute la
vérité.
Quand
on est réaliste,
exactement,
en fait.
Exactement, quand on est réaliste. Parfois, ça va mieux, mais après ça, ça ira encore mieux. Tu vois.
Donc, on est sur du vécu. Ce sentiment d'avoir envie d'éclater dans la voiture, ce couple, cette fille qui est partie avec quelqu'un d'autre, etc.
Bah,
vous l'avez vécu, Dadju? On a osé vous quitter?
Non, on rentre dans les vraies questions, là.
Ça m'est arrivé, c'est vrai.
C'est vrai, ouais, c'est un vrai, beau garçon comme ça.
Ça m'est arrivé, ça peut arriver. Je
vous
n'étiez
pas
peut...
comme ça, qui aimait un foot beat.
Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est.
C'était avant que vous ayez du succès, rassurez-moi.
Ouais, c'était avant. Ouais.
Et maintenant, elle regrette.
je sais pas si elle regrette. J'ai pas de nouvelles d'elle, mais je pense, ouais. Oui. Je pense qu'elle regrette, ouais. Et j'espère que tu regrettes. Hein.
Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1. Europe 1. Passez l'été avec Anne Romanoff.
Jusqu'à midi et demi, le programme sur Europe 1, il est simple. C'est du sourire, de la bonne humeur, beaucoup, beaucoup de rigolades autour d'Anne Romanoff avec les meilleurs moments de Ça fait du bien et d'Adjou qui est venu parler de son double album et surtout des nouvelles dates de sa tournée. Attention, Parc des Princes en juin prochain.
D'Adjou, dans cet album, il y a de nombreuses collaborations. On peut entendre Damso, Nekfeu, Kobala, Bruna... Après, je connais
Kobalade,
pas...
Kobalade.
Kobalade, Bruna Boy, Davido, c'est ça qu'on dit ?
Burna Boy, oui. Davido.
Burna Boy ? C'est Voyage en terre inconnue, cette année.
Alors la Burna Boy, c'est le meilleur, quoi. Et avec une participation de Burna Boy.
Ouais, bonjour. Non, mais elle connaissait le nom, elle a fait exprès. Ouais. Voilà.
Alors pourquoi il n'y a pas de... Alors, je ne l'ai pas dit, mais certains le savent, d'autres non. Vous êtes le frère de Maître Gims, qui exactement. Maintenant d'ailleurs s'appelle plus Maître.
Il s'appelle Gims, ouais.
Gims tout court.
Gims tout court, ouais.
Voilà. Vous êtes donc le frère de Gims tout court.
Exactement.
Vous n'avez pas fait de collab avec lui parce qu'il ne voulait pas interférer dans votre succès. Il n'avait pas le temps, il était trop occupé à faire des tubes avec Vianney. Pourquoi
Ben en fait, on s'est clashé. Donc non, je rigole.
Vous avez combien d'écart d'âge tous les deux?
On a 5 ans. 5 ans d'écart. Okay. On a 5 ans d'écart. Et... Non, c'est juste, c'était un choix. Hein, on a fait beaucoup de collabs, Gims et moi, ces dernières années, même quand j'étais en groupe. On a fait beaucoup de collabs. Depuis que je suis en solo, on a dû en faire 3 ou 4. Donc, on s'est dit, pas sur cet album. Bien sûr, on va en faire plein, on va en faire même beaucoup. On a des idées en tête là. Mais on s'est juste dit que là, autant calmer pour revenir, essayer de revenir fort avec le prochain titre.
Comment vous expliquez ça, cette adhésion du public à ce que vous faites ?
Ça ne s'explique pas. Hein. Je pense qu'ils sont fous. Je pense qu'ils sont fous et c'est ça que j'aime dans mon public. C'est cette folie. Quand on a annoncé le Parc des Princes, on a vendu 5000 places en 30 minutes.
Rien.
Et c'est en fait, j'ai pété les plombs. En fait, c'est vraiment, j'ai un public qui me donne beaucoup. C'est-à-dire que je peux sortir un son, et je l'ai déjà vu, je sors un son à minuit. J'ai un concert le lendemain à 21h. Ils connaissent la musique par cœur. C'est-à-dire qu'ils ne me laissent même pas chanter. Et je suis vraiment content d'avoir un public qui comprend et qui accepte ma musique aussi facilement. Ça donne envie de faire plus, ça donne envie de tester de nouvelles choses.
Parce qu'en fait, c'est vraiment un nouveau style que vous avez inventé finalement, parce que vous mélangez l'urbain et les sentiments.
Exactement. Bah,
personne n'avait fait ça avant, en fait.
J'essaye d'inventer un nouveau sport. Un nouveau sport et je pense qu'on est sur la bonne voie.
Il paraît qu'il y a des maisons de disques, une maison de disques qui vous a laissé partir à un moment, ils doivent... comme ça.
Ouais, on est en contact encore parce que on s'entend bien via d'autres artistes qu'ils ont signés. On s'entend super bien, mais c'est vrai qu'ils m'ont laissé. Il y a deux trois maisons de disques comme ça qui m'ont laissé partir.
On va régler les comptes.
Parce que ils vous ont laissé partir parce qu'ils vous ont dit c'est quoi ce style en fait, parce qu'ils s'attendaient pas à ça de vous. Ils auraient voulu quelque chose de plus rythmé, ils auraient voulu du rap, quelque chose de revendicatif, et vous avez inventé quelque chose finalement où vous parlez de sentiments humains avec réalisme et quelque chose de très positif. Et ça, c'est ça qui est novateur en fait.
Bah, c'est ça qui faisait peur en fait. C'est ça qui faisait peur. On a toujours un peu peur, on appréhende un peu l'inconnu. Quand on ne connaît pas, on se dit, ce style-là, peut-être que... Ah, c'est
vous-même, vous ne saviez pas que ça allait marcher comme ça ?
Pas du tout. Et donc, quand je suis arrivé avec cet album-là, et avec ce style de musique-là, et en plus, étant le frère de Gims tout court, bah, c'est difficile. Vous savez, quand le grand frère est une superstar, on se dit toujours que le petit frère... il n'y arrivera pas vraiment, tu vois, c'est juste son petit frère. Donc, on a déjà Gims, on ne va pas prendre le petit frère pour faire un style qu'on ne connaît pas, pour exploiter un style qu'on ne connaît pas.
Les maisons disent qu'ils voulaient en fait que vous fassiez soit du Gims, soit de la Section d'Assaut comme vous faisiez avant. C'est ça qu'ils attendaient.
Exactement, ouais. Exactement. Ben, un style qui est connu, quoi.
Et alors, c'est incroyable parce que le clip Rennes sur YouTube, 230 millions de vues.
Ouais, c'est dingue, 230, hein. Oh là là. Ouais. Je ne m'étais pas arrêté là-bas. Ouais. Ah ouais, ça fait...
Et alors, tous vos clips sont très, très léchés. La réalisation est incroyable à chaque fois.
Ben, je suis à la réalisation de tout.
C'est vous qui les réalisez ?
Ouais. J'essaye vraiment de...
Alors, les femmes sont très bien choisies. Hein. C'est toujours... hein.
Oui, c'est vrai. J'allais vous le dire.
Merci. J'essaye de faire des mini-films. C'est une autre...
Ah non, mais vraiment. Je ne savais pas que c'était vous qui faisiez
passion ça. Une autre passion que j'aime bien. Quand je me mets avec un réal, j'essaye vraiment J'ai une idée en tête en fait quand j'écris un titre.
Vous voyez les images.
Quand j'écris un titre, j'ai une idée en tête et j'ai vraiment envie de mettre ça en image.
Donc, c'est très réussi.
J'essaye d'être à la réalisation de tous mes clips.
On peut participer au casting des danseuses ou...
Bien sûr, bien sûr.
Ah, ben bah, je vais venir.
Bah, c'est à 16h justement.
16h, bah, oui, bah, voilà. Je fais rien à 16h, moi non plus.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Dans un instant, on retrouve Anne Roumanoff, les meilleurs moments de Ça fait du bien, avec son invité Dadjo. Juste avant ça, voici l'un des titres qui va certainement vous accompagner tout l'été. Ben L'Oncle Soul reprend un titre des White Stripes. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's why. And the feeling coming from my bones says, find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on. C'est sur Europe 1, tout cet été, avec Anne Roumanoff et son équipe, les meilleurs moments de Ça fait du bien, pendant encore quelques minutes, juste avant de retrouver les infos, et aux côtés de leur invité, Dadjo.
Alors, vous avez grandi à Romainville avec vos 14 frères et sœurs, comme Céline Dion, je crois qu'ils sont 14 aussi. Ouais. C'est si, ça c'est le point ça. Commun, Dadjo, Céline Dion.
C'est ça, c'est ça. On a grandi un peu partout, disons.
Ça a dû être quand même un passage de vie difficile quand même. Elle avait 14 enfants, le mec n'était pas là, elle n'avait pas d'argent.
Ben, c'était super dur, super dur. On a vécu des choses, des situations extrêmement difficiles. On a été à la rue, on a été expulsé, on a dormi dehors, sans argent, sans personne. Il y a plus personne, il y a plus d'entourage. Et puis même tes amis, ceux qui sont avec toi au quotidien, eux aussi, ils sont dans leur galère. Ils peuvent pas forcément t'aider. C'était vraiment vraiment difficile. J'ai vécu une jeunesse assez difficile, pas la pire, je pense. Il y a toujours pire que soi, mais assez difficile. Et puis, on a quand même reçu l'aide d'une femme qui était ma CPE.
Ouais, qui vous a amené à la mairie pour avoir des aides, parce que votre mère n'avait pas de papier en plus.
Exactement, exactement. Qui faisait des cotisations déjà dans mon collège pour avoir 5 euros par-ci, 10 euros par-là pour qu'on puisse manger. Et qui nous emmenait à la mairie et qui parlait en notre nom, en fait. Pour
comment elle s'appelle, cette femme? On peut dire son nom, hein.
Madame Viéville.
Madame Viéville.
Exactement, c'est Madame Viéville. Et bon, elle n'est plus dans ce collège-là, elle est dans un autre collège, mais je suis toujours en contact avec elle. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'elle sache que voilà, je fais des tournées dans le monde entier, des concerts dans le monde entier, je vends des CD et tout, elle ne m'a jamais rien demandé. Elle m'a juste envoyé un message, c'est elle qui m'a retrouvé en plus. Elle m'a juste envoyé un message pour dire je suis vraiment contente de voir ce que t'es devenu et j'espère que ça va continuer. Alors que autour de moi, on me demande tout le temps quelque chose.
C'est bien que vous en parliez d'ailleurs.
On vous a fait une liste d'ailleurs.
Elle m'a jamais, moi j'ai un Porsche Cayenne. Ça m'a beaucoup touché.
C'est vraiment cette femme qui vous a sorti de la mouise quand même.
Oui, exactement.
Vous et votre famille, pas que vous. Parce qu'elle vous a pris vous en sympathie, qu'elle a voulu aider toute votre famille. Comment elle a su que vous n'aviez pas à manger, Dadju?
Ben en fait moi je suis quelqu'un de très fier. Donc quand j'allais au collège, et ben je montrais pas que ça allait pas, et puis plus les jours passaient, plus je commençais à être énervé. J'étais très 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 négatif à chaque fois que j'allais à l'école, et à la base je suis quelqu'un de très positif. Donc elle me connaissait bien, donc elle commençait à tâter le terrain, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va à la maison, est-ce que ça va ceci, est-ce que ça. Et un jour je lui ai dit ouais, voilà, c'est un peu compliqué, là j'habite plus chez moi pour venir là ici à l'école, maintenant je dois prendre 3 bus pour arriver ici et tout, c'est plus compliqué et tout. Et de là, après, elle a pété les plombs, elle a dit non, c'est pas possible, c'est pas normal et tout, ça peut pas être ça, cette situation, etc. Après, franchement, elle a fait tout le nécessaire.
Elle a pris rendez-vous à la mairie, l'assistante sociale, elle a tout fait.
Elle a tout fait. Tout fait.
Redite son nom, ça fait plaisir.
Madame Vieville, super héroïne, c'est un Avenger.
Justement, vous parlez de la période de précarité dans le titre. Avant d'être riche, j'étais pauvre, je connais la douleur du pauvre. Je veux plus cette vie, il y avait pas d'eau dans le seau. J'ai taffé de midi à l'eau pour changer ma vie. La rancune, c'est mon défaut. Si tu m'as laissé dans la fosse, je vais pas t'oublier. Le pire, c'est que quand il fait beau, tout le monde veut monter dans le bateau. Va te faire enculer. Je suis loin d'être un exemple. D'ailleurs, je veux pas qu'on me prenne un exemple. Avec un sourire, je peux te mentir. Y a personne qui sait ce que je ressens. Je suis bien éduqué, mais souvent j'ai eu beaucoup. Alors, quand même, votre père chanteur, qui a deux fils qui sont des stars de la chanson, ça doit lui faire drôle aussi.
Ben, c'est une grande fierté pour lui. Il est super content. Il nous le montre tous les jours. Il nous montre tous les jours qu'il est fier. Et voilà, on est content et on est aussi content de lui rendre ça.
Et vous, comment vous avez appris la musique, Dadju, alors?
Ben, moi, c'est en cours de route, hein. Moi, j'ai toujours baigné dedans. Dans la musique, j'ai toujours aimé la musique, mais j'accompagnais souvent Gims tout court en...
Ça où suivre, ça. Ça où suivre.
J'accompagnais souvent Gims en studio et un jour, il m'a proposé de faire un son avec lui parce qu'il m'entendait tout le temps chantonner ses sons à lui. Et il trouvait que j'avais une bonne voix. Il m'a dit, vas-y, viens, on fait un son, on essaye comme ça. Il n'y a que toi et moi, là, viens, on l'essaye. On a fait un son. Le son était super nul, mais il y avait du potentiel. Il a vu du potentiel. J'ai fait écouter le son un peu partout. J'ai reçu quelques conseils et de là j'ai fait deuxième, troisième, quatrième son et c'est là que c'est parti. Et j'ai commencé à m'investir beaucoup en voulant avoir des résultats, tout ça, jusqu'à arriver ici.
Et quand est-ce que le prochain frère y perce?
Qu'est-ce qu'ils font les 12 autres?
Ils sont en studio, là, ils enregistrent.
Il y en a d'autres qui arrivent. Ben, j'ai un petit frère qui a fait un manga avec Gims, justement. Il s'appelle Darcy. Je pense que lui, il va arriver dans pas longtemps. Il est super intelligent. Je pense que c'est même le plus intelligent d'entre nous tous. Il est sur plein de projets et plein de projets qui vont fonctionner. J'ai d'autres frères aussi qui sont dans la musique.
C'est une pépinière, cette famille, c'est incroyable.
Et les sœurs, non, elles font rien, les sœurs?
Mes sœurs, elles chantent super bien, mais elles ne sont pas dans la musique. Mais elles chantent super bien. Et j'ai un neveu. Non, sérieusement, je rigole pas. J'ai un neveu, il est super fort.
Il se présente aux élections.
On vient juste d'entendre, là, il est allé au studio tout seul. Il est revenu avec des sons.
Avec un disque d'or.
Il a 4 ans et demi, c'est incroyable.
Mais voilà. C'est quoi cette
famille? Tu trembles, Jordi.
Il est vraiment fort.
Il a quel âge?
Il a 19 ans.
Alors, vous avez aussi... vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez un nombre de Facebook, 740 000 j'aime, 940 000 Twitter, 4 millions sur Instagram.
Sur LinkedIn aussi, vous êtes présent ou pas du tout?
Pas encore.
Et du coup, il n'y a que de l'amour qui vous arrive des réseaux sociaux ou parfois il y a de la haine?
Ben non, mais sur les réseaux, il n'y a jamais que de l'amour. Hein. Sur les réseaux sociaux, c'est même... Bon, il y a quand même plus d'amour, mais il y a quand même beaucoup de haine.
Comment vous vivez ça, Dadju?
Ah non, ça ne me fait rien du tout, moi. Ah ouais. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout quelque chose qui me tienne à cœur. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un autre monde, c'est un monde parallèle, c'est un jeu. Parfois, les gens sont méchants juste pour le buzz. C'est même pas pour être méchant. En vrai.
Non, mais j'allais dire, vous avez raison. Et du coup, moi, ce que je vous ai préparé quelque chose, vous avez raison. La méchanceté, ça rapporte du buzz, etc. Et il y a un truc qui se fait beaucoup dans le rap, c'est le clash.
Ouais.
Alors vous clashez pas, en tout cas pas récemment. Il n'y a pas eu de clash avec un autre rappeur. Et c'est vrai que plus la personne est connue, plus le buzz est puissant. Par exemple, quelqu'un qui pèse 4 millions de followers, c'est puissant. Dadju, c'est puissant. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais clasher Dadju. Et bon, j'ai trouvé une instru bien lourde. Un truc, ça te tabasse. Balance le son, MC Desmoulins.
MC Desmoulins.
Là, on sent que ça va faire mal. Là, je commence à me chauffer. Dadju, ça tremble là.
Ouais,
hein,
ouais,
ça tremble.
Ouais,
Ben H, 7-8 représente Versailles. Ouais. Et puis là, bah, DJ finalement coupe le son. Pile à ce moment-là, là, j'allais commencer à attaquer mes premiers couplets assassins à votre égard, dans la grande tradition du rap game. Là, je me suis rappelé deux choses, Dadju. La première, c'est que vous alliez être juste en face de moi, et la deuxième, c'est que je pèse 35 kilos. Du coup, et puis 35 kilos de lâcheté, quoi. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas la moindre trace de courage en moi. Du coup, je vous cache pas que j'ai changé mon fusil d'épaule. DJ Desmoulins, balance le gros son. Moi, dans la vie, quand j'ai un coup de mou, tu sais ce que je fais? J'écoute Dadju. Même si t'aimes que la variété, que le rap c'est un truc de cité, écoute Dadju, c'est franchement mieux que Michel Sardou. Même si tu es très vieux et que la mort est dans tes yeux, tes derniers moments seront plus doux si dans tes oreilles il y a Dadju. Là attention, refrain. Pour moi Dadju c'est le boss du rap game. Booba l'appelle patron et son petit chien c'est Eminem. Et là on peut répéter. Pour moi Dadju c'est le boss du rap game. Bon, j'ai pas la suite, ok, j'avais la flemme.
Le meilleur d'Anne Romanoff, c'est le programme tout l'été sur Europe 1 et tous les jours de 11h à 12h30. Anne, entourée de toute son équipe, évidemment, ça fait du bien. Rendez-vous demain à partir de 11h avec un sacré casting. Claudia Tagbo, Gauvin Serre, Barbara Pompili et Daniel Herrero. À demain 11h sur Europe 1. Dans un instant, le journal de la mi-journée avec François Clauss.